Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Gildas Loaek. Il est le cofondateur avec Masaya Kuroki de la marque Maison Kitsune. Après une carrière dans la musique aux côtés des Daft Punk, il lance en 2002 Kitsune. À la fois un label de musique, une marque de vêtements Maison Kitsune et depuis quelques années une marque de café. Dans cet épisode, on revient sur son parcours, sur sa carrière dans la musique, sur toute l'épopée de Kitsune et on parle de nombreux autres sujets. J'ai adoré interviewer Gildas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Gildas Loaek de Kitsune, cofondateur de Kitsune. Bonjour Gildas.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Je m'appelle Gildas Loaek. Ouais. Je suis le cofondateur de Kitsune, ouais. Ce que vous venez de dire, qui existe maintenant depuis 15 ans, il y a des poussières par là. Qui est une marque pluridisciplinaire, comme on se plaît à dire, ouais. Voilà, qui initialement était un label de musique avec vocation d'être aussi une marque de mode et aujourd'hui aussi une marque de café. On parle de coffee business ou de comment on appellerait ça sinon d'hospitality en anglais. Ouais. Pardon, j'ai utilisé des mots anglais.
Ouais, pas de souci.
Je suis désolé par avance. Et voilà, l'idée pour nous, avec mon associé Masaya Kuroki, et cofondateur, a toujours été de vouloir faire une marque forte, ouais. Basée à Paris, avec l'idée de ce que Paris représente à l'international et avec aussi quelque chose de peut-être de japonais aussi en pour certaines choses car mon associé il est japonais donc forcément ça influence certains de nos choix voilà on a commencé par sortir des disques faire un label de musique ouais. qui était mon métier original ouais. Le métier originel de mon associé architecte. Ouais. Naturellement, on a commencé par faire des disques avec avec Kitsune parce que précédemment, j'étais pendant de nombreuses années accompagné Daft Punk et un peu partout à travers le monde et au travers de leur sortie de disques sur leur label indépendant qui était Roulé et Cri d'amour. Donc j'ai un background
plutôt du music business
de music business ouais. De producteur de disques
juste voilà. Là vous allez super vite, moi j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière quand même sur le tout démarrage parce que je sais que vous êtes d'origine bretonne moi j'ai envie de partir assez loin pour comprendre tout le cheminement même si beaucoup de gens le connaissent j'ai envie de creuser un petit peu deux trois choses. Vous avez grandi en Bretagne et puis
alors si on doit revenir plus loin on a oui alors je suis né dans le Finistère Nord ouais. C'est ça se présenter c'est tout là-bas dans le nord du Finistère où ouais. C'est sauvage, la côte est sauvage. Ouais. Et il y a du vent, le ciel est très proche de la terre ou de la mer. Ouais. Et où les gens sont taiseux, ils disent pas trop leurs sentiments, leurs émotions, ils sont très pudiques, ouais. Voilà. Ouais. On dit pas facilement je t'aime, c'est particulier. Ouais. Et on avait la chance mes parents sont, enfin, mon père est agriculteur, ma mère est institutrice, si on va jusqu'au bout de la présentation. Et j'étais au lycée, au collège, dans le sens, on peut quoi, collège, lycée, ouais. À Lesneuvin, dans le Nord Finistère, si on veut aller plus loin. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami que je me suis fait très jeune à ce moment-là, quand on avait 15 ans, on était en troisième, un garçon qui s'appelle Loïc Prigent, voilà, qui lui aujourd'hui est plutôt très connu dans le métier de la mode par le fait qu'il soit à faire des documentaires et à suivre un peu ce qui se passe un peu tous les jours dans
les maisons, ouais.
dans ce métier-là, dans les défilés, dans les présentations de la mode, dans les anecdotes et les travers du métier, mais aussi ce qui se fait de bien dans le métier. Enfin bref, voilà.
Je l'interviewe bientôt, en tout cas, il pourra nous raconter tout ça.
Ah oui, et Loïc et moi avons sympathisé quand nous étions plus jeunes. Ouais. Depuis, on s'est pas quitté d'ailleurs, mais voilà. Et Loïc, lui, il avait un talent qu'il a toujours d'avoir beaucoup beaucoup de style et dans son écriture et dans sa façon de regarder les choses et le monde. Voilà, donc j'ai eu la chance de me mettre dans sa roue un peu comme on peut le faire dans le Tour de France quand il y a un leader. Et, ouais. Et voilà, et ensemble on faisait des fanzines, des petites feuilles de d'humeur. Voilà, sur ce qui se passait dans notre classe, dans notre lycée, dans notre école. On a fait une petite émission de radio, voilà. Et on avait fait même un petit fanzine qui s'appelait Têtu, il y a du soleil entertainment, et qui avait été ensuite dont le titre a été récupéré par la suite pour devenir un magazine de la communauté homosexuelle. Et il se trouve que voilà, enfin bon, c'est pour l'anecdote. Ouais. Et Loïc est venu à Paris. Loïc était très curieux, donc on écoutait beaucoup de musique anglo-saxonne. On était passionnés pour tout ce qui venait de house music, rave music venant d'Angleterre. Voilà, on allait dans des fêtes, des soirées. Enfin bon. Et je suis venu à Paris. J'ai ouvert un petit magasin de disques.
Mais enfin, ça me fait halluciner à chaque fois parce que. Vous n'avez pas fait d'études et vous êtes arrivé à Paris comme ça et la mouche vous pique et vous dites j'ouvre un magasin de disques.
Voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Bah je sais pas. Alors je peux pas vous dire, mais c'est juste que il se trouve que c'était une opportunité d'un ami de Loïc qui à l'époque, alors je sais pas si on est obligé de rentrer dans les détails jusqu'à ce point-là, qui à l'époque était DJ et s'occupait d'un petit magasin de disques dans le magasin de skate le plus cool de Paris que je savais pas que c'était le magasin le plus cool de Paris à cette époque-là, qui s'appelait Street Machine. On y vendait des marques comme Girl, la marque de Spike Jonze, ou Milfed, la marque de Sofia Coppola. Enfin, voilà, des petites marques un peu emblématiques du skate de l'époque. Et Tobias, qui tenait ce magasin, avait une petite échoppe en face de son magasin et voulait se débarrasser du magasin de disques. Concours de circonstances, je récupère les shops en face de son magasin et l'activité de disque qu'il avait. Et voilà, et je me lance à vendre des vinyles. À cette époque-là, les DJ, c'était il y a longtemps, 25 ans, les DJ utilisaient encore des vinyles. Alors, je sais que certains croient que ça revient, le vinyle. Enfin bref, là, aujourd'hui, les gens, ils s'achètent des vinyles de Rolling Stone et de Nirvana. Hein, enfin bref. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de disques de production. Toutes les productions de clubs et de se faisaient en
vinyle.
De house, c'était des vinyles. Voilà, genre, qui venaient de partout, qui venaient des États-Unis, d'Allemagne, d'Italie. Ouais, dès que je vendais de la musique de club pour tous les DJ parisiens, DJ Deep, Laurent Garnier, Yvan Smag à l'époque, de fil en aiguille, j'ai un peu appris à gérer une petite entreprise. J'ai fait comme tout le monde, j'ai confondu
la caisse avec son portefeuille.
non, pas ça, mais disons que confondu chiffre d'affaires et résultats.
Voilà, ouais, c'est plutôt ça.
Et non, mais après, bon, c'est intéressant. Et il se trouve que dans les visites de cette clientèle, j'ai sympathisé avec deux garçons qui venaient de temps en temps, qui étaient Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homo Christo, qui étaient des clients de ma boutique à cette époque-là. Ouais. Voilà, et de fil en aiguille, j'étais pas non plus un as de tenir les rênes de ma petite entreprise, de mon petit magasin de disques. Ouais. Je me suis retrouvé à habiter chez l'un des deux, le robot des Rois, Guiman, colocataire, concours de circonstances, heureux certainement. Et j'étais là et je me suis retrouvé à collaborer avec eux pendant une bonne dizaine d'années, sur leur premier disque et leur premier projet, où j'ai appris à leur côté le métier du disque, le marketing, le style, l'importance du style, et voilà, et aussi avoir eu la chance de voyager, de voir des choses, de...
Et j'ai deux questions là. La première, c'est le père agriculteur et la maman institutrice, ils disent quoi de tout ça? Vous avez coupé les ponts, ou ils vous ont dit non, mais c'est très bien, mon fils. Écoute, tu fais ta vie. Hein.
Ah non, bah, oui, je sais pas, non, j'ai pas de pas.
Ils ont pas mis de frein à tout ça.
Ah non, non, jamais, non. J'ai pas de. Non, j'ai pas de. Il y a des parents qui mettent des freins à leurs enfants, ça existe?
Je crois, ouais.
Ah ouais?
Ouais.
Non, 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 pas les miens, non, pas du tout. Non. Après, agriculteur, c'est entrepreneur, hein, c'est la même chose.
C'est,
hein, c'est la même chose, c'est faire juste sans métier. Et c'est juste faire sans métier qu'être agriculteur. Hein. C'est plus que c'est plus qu'être entrepreneur même. Ouais. Mais non, pas du tout. Pas, on s'est jamais posé trop de questions d'aucune manière de quoi que ce soit
de ce côté-là.
Et sur la... ça, c'est. Mais il y a la case études qui a été zappée.
Non, il y a eu zéro étude. En fait, il n'y a même pas eu de volonté ou quoi que ce soit d'entreprendre des études.
J'ai pas été. J'ai fait un peu de fac, la faculté, un peu comme tout le monde, une année, voilà, histoire de traîner mes guêtres. Mais j'ai pas eu de volonté de cursus spécifique.
Et puis le premier...
Je pense que c'est des questions de milieu et d'environnement, certainement, et de pression.
Sociale ou pas.
Et
le quand.
De
quand...
talent, peut-être. D'autres choses, d'envie.
Ouais.
Non, non.
Quand vous démarrez avec les Daft Punk, en fait, vous apprenez le métier sur le tas, tous.
Bah, oui, certainement. Alors, on avait la chance d'avoir aussi un mentor dans la personne du père de Thomas Bangalter, le robot argent, qui s'appelle Daniel Vanguard, qui lui était producteur de disques et a eu beaucoup de succès dans les années 70 avec des titres disco comme Kotawan, avec les Gibson Brothers, il a vendu des millions de disques. Donc après, tout le monde apprenait le métier du disque, mais en même temps, il y avait aussi le papa de Thomas qui était là, présent, à donner des bons conseils.
Ouais, il avait ouvert une grosse brèche déjà.
Et qui aussi a accompagné son fils et le groupe de son fils pendant quelques années. Et après, n'empêche que les garçons de Daft Punk ont leur autonomie, grande autonomie et intelligence et génie d'eux-mêmes, hein, de clairvoyance et de vision. Je pense que c'est ça aussi qui leur est propre à eux, certainement. C'est ça qui fait la différence, je pense, aussi entre un groupe comme Daft Punk et d'autres qui n'ont pas connu le même succès. C'est des circonstances de talent, certainement, à l'origine, de savoir écrire et d'être capable de composer des chansons qui touchent les gens de grande ampleur, et en même temps aussi d'être capable de savoir raconter l'histoire qui va avec les chansons pour qu'elles touchent les gens aussi encore plus loin. Et voilà, donc il y a toute une vision, certainement, aussi... Alors, on appelle ça marketing, certainement, mais qui est qu'on dit maintenant storytelling. Ouais. Mais voilà, qui était que Daft Punk avait déjà
intuitivement
avait en eux et savait exactement comment se présenter, quelle histoire ils voulaient raconter, qu'est-ce qu'ils voulaient donner ou pas, quelle partie de mystère il fallait créer pour créer de l'attrait. Combiné, bien sûr, avec une assurance d'un talent spécifique aussi, parce que c'est que le talent qu'ils ont qui garantit le fait que toute l'histoire qu'ils racontent derrière tient aussi, parce que sans la matière originelle qu'est la chanson, il est compliqué de créer autant d'intérêt aussi, certainement. Donc ils ont une assurance aussi eux-mêmes de leur génie. Alors, je sais que bon, je sais pas s'ils aimeraient qu'on dise ça, mais certainement de leur talent et de leur talent de producteur et de compositeur. Ouais.
Et vous, alors, pendant ces 10 années, c'est quoi quotidiennement votre taf, enfin votre travail, qu'est-ce que vous faites?
Je pense pas que j'ai forcément la possibilité de raconter la vérité, parce que le livre est à venir un jour.
Ouais.
Mais après c'est du travail de maison de disque, mais dans un environnement très amical, voilà. Donc c'est pas il y a beaucoup de travail de la part de Thomas Guimanuel à écrire des chansons et à composer et ensuite à nous d'une certaine manière d'aider à ce que ça se fasse et que des choses s'organisent autour et que ça fonctionne. Maintenant, dans un environnement de travail très
très amical.
Ouais, voilà. Donc, mais après, ça n'empêche qu'on sortait sur les labels indépendants de Enroulé, Crée d'amour, quelques vinyles par an. Voilà. Donc, c'était s'occuper d'installer une distribution, de permettre à des disques d'être distribués dans beaucoup de magasins indépendants à travers le monde. Voilà, et qui n'était pas non plus compliqué en soi, parce que en fait il y avait plus de demandes, il n'y avait pas non plus un travail commercial à faire, parce qu'il y avait l'intérêt pour
le groupe,
pour la musique, donc il y avait aussi jusqu'à souvent répondre à une demande ou justement ne pas y répondre, donc c'était pas...
Vous aviez une démarche assez sélective sur
pas forcément sélective, mais disons qu'il y avait pas d'investissement à faire en termes de démarchage commercial par rapport à aller chercher des potentiels clients, puisqu'ils se présentaient très spontanément au groupe pour acheter ces vinyles là en question. Voilà, mais après c'était une époque un peu dorée qui est pas non plus la réalité de tous les jours du marché du disque. Donc il y a aussi cette chance d'avoir participé à ça et d'avoir vécu ça de l'intérieur et d'avoir appris beaucoup de choses font que ça a fonctionné. Voilà, on a fait de la chanson, leur vision et les timings, les séquençages des différentes époques qui font que ça puisse toucher les gens. Et la chance, ils ont eu beaucoup de chance aussi à beaucoup de moments.
Mais voilà. C'était très réfléchi quand même, tout ce qu'ils faisaient, il y a une part de chance toujours, mais c'est quand même vachement réfléchi, quoi. Je veux dire, ils étaient vifs. Enfin, vous étiez tous vifs, quoi.
Ils étaient très, très vifs, ouais. Mais c'est surtout qu'après coup qu'on s'en rend compte, mais ils étaient très, très vite. Très, très vifs. Moi, je me suis réveillé un peu plus tard.
Ouais. Et alors, ça a duré 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après?
En fait, dans les 10 ans en question, on avait été une fois au Japon avec Daft Punk, parce qu'ils faisaient une production de vidéo.
Ouais.
Avec un réalisateur et producteur japonais qui s'appelle Leiji Matsumoto, qui avait fait Albator et qui était très connu plus pour ce dessin animé là, et Daft Punk voulait lui faire réaliser une vidéo par chanson de l'album Discovery, et pour en faire un film ensuite par la suite où toutes les chansons seraient réunies dans un seul format d'un film, et qui est devenu Interstellar 555. Voilà, et comme les productions se faisaient au Japon et qu'on était indépendant, je me suis rappelé de Masaya Kuroki, qui était le japonais qui parlait français et qui était à Street Machine aussi, qui passait quand j'avais mon magasin de disques plus tôt et par là-bas, et je l'ai rappelé pour lui faire coucou, on va au Japon avec Daft Punk, est-ce que tu veux nous accompagner plutôt que d'avoir un traducteur en local là-bas qui est peut-être pas aussi fun que pour aller de Masaya. Voilà, donc on est allé avec Masaya au Japon et Daft Punk et Masaya nous servait un peu de guide et d'un interagissait avec les locaux avec nous, ce qui était plutôt marrant. Et c'est vrai qu'au Japon avec Masaya, on a tous les deux plus sympathisé, on devenait un peu dingue, on faisait toutes les boutiques une à une. À cette époque-là, c'était le Japon de la fin de la grande époque du Walkman et tout ça. Donc, ils étaient très, très riches. Ouais. Il y avait des boutiques jusqu'au 7e étage des magasins, dans la rue partout. Enfin, il y avait des boutiques sans fin. C'était impressionnant. Donc, nous, je me rappelle qu'on faisait toutes les boutiques une à une. On était comme des dingues. Et c'est vrai que, bon an, mal an, l'idée nous est venue de pourquoi pas faire un projet ensemble, voilà, de faire quelque chose qui pourrait nous plaire et qui qui pourrait pourquoi pas plaire à une clientèle japonaise aussi d'un certain côté. Mmh. Voilà, donc l'idée nous est venue de créer ce label de disques et cette marque de vêtements.
Mais l'idée, c'était vraiment, dès le départ, c'était ça. C'était un label de musique et une marque de vêtements. Ouais.
Alors, on a commencé plus vite avec le label de disques, puisque mon métier était celui du disque, et c'était quelque chose que je maîtrisais mieux.
Ouais.
Et donc, c'était plus facile. Ouais. J'avais plus la capacité d'être capable. Pas mal. Mais j'avais plus à l'aise à pouvoir sortir des disques que ne serait-ce que faire d'événements, parce que ni lui ni moi n'avons de
background,
ni de famille, ni n'avons fait d'expérience dans ce beau métier du prêt-à-porter. Voilà, donc on sortait des disques et en parallèle, on a passé 2-3 ans à explorer, chercher, comprendre comment on faisait d'événements, par où ça passait, où on achetait des tissus, à qui, comment, où on les montait, les pièces. Voilà, donc ça a été
un
process.
Un long chemin.
Ouais, alors personne ne vous dit...
Les bons plans.
Non, il faut creuser. Voilà, donc mais c'était plus Masséa qui s'était collé cette partie-là, d'ailleurs, pour tout dire. Mais voilà, et au finish, c'est vrai qu'on a fini par arriver à... alors, je ne sais plus dans quelle échéance, mais bon an, mal an, à faire une paire de jeans, un polo, un cardigan et une chemise, et les présenter une fois. Et voilà, c'était comment... c'était un début... Et depuis, chaque année, on
rajoute des pièces.
On en rajoute des pièces, on améliore les collections, la proposition. Ouais. Ouais. Et l'idée pour nous a toujours été de faire une entreprise. Hein, ça nous plaît, l'idée d'être entrepreneur et de faire ce qui nous plaît de nos journées. Hein, c'est ça le plus important, hein, c'est de...
C'est d'amuser.
Alors, c'est d'y passer du bon temps et de faire ce qui nous plaît. En premier, et de faire une entreprise en deuxième. Alors, les deux sont liés. Et puis, voilà, et de créer quelque chose, une marque, de faire une identité. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'une nouvelle marque?
C'est la grande question.
À cette époque-là, déjà, est-ce qu'on avait besoin d'une? Est-ce qu'il n'y a pas déjà tout? Est-ce qu'il n'y a pas déjà tout ce qu'on a besoin chez Ralph Lauren? Pourquoi aller faire quelque chose qui.
Voilà. Ouais,
mais en même temps, on se disait qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas en faire une, qu'on peut aussi se faire plaisir de un peu tous les jours et on se prend au jeu aussi de plus en plus. Et après, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller au bout de chacun des métiers qu'on fait, et c'est pas juste que du storytelling ou du marketing, mais c'est définitivement quand on fait un label de disque, on n'est pas en train de faire semblant de faire un label de disque, c'est-à-dire que on fait le métier jusqu'au bout, on signe des artistes, on les développe, les artistes vont jouer dans des festivals, jouent à la radio.
Ouais, vous faites le taf, quoi.
Et on n'est pas la maison d'édition en parallèle, on est effectivement en train de créer une histoire pour et de promouvoir des artistes qu'on espère être qui ont pour certains leur vie sans nous à un moment quelconque et qui c'est pas juste un travail de producteur pur comme il doit se faire. Et et pareil pour la marque d'événement, l'idée c'est pas de faire du merchandising non plus du label de disque ou des artistes, qui n'est pas du tout le cas et qui n'a jamais été le cas, mais de faire une vraie ligne d'événements avec un soin précis sur les silhouettes, les matières, les finitions, dans la mesure de ce qu'on est capable de faire avec notre métier, mais qui tend qu'à s'améliorer par rapport à la prise de conscience et de connaissance de savoir-faire qu'on peut acquérir au fur du temps, et que pour nous l'idée c'est qu'une marque ça prend beaucoup de temps à faire et que ça prend plus de temps qu'on pense que ça en prend.
Ouais.
Et que c'est une fondation de quelque chose qui est plus une base sur laquelle par la suite on peut grandir et se développer, mais c'est pas et puis ça coûte plus d'argent qu'on pense aussi. C'est bien plus exigeant en cash flow qu'on pourrait ne serait-ce que jamais le penser. Parce qu'aller au bout de chaque métier oblige aussi à amener du savoir-faire, à amener des investissements. Ouais. Et pareil, de la même manière, quand on est arrivé à un résultat qui nous plaît, c'est aussi quelle histoire on raconte, comment on fait et connaître l'histoire. Donc, c'est aussi à nouveau d'autres investissements. Donc, c'est sans fin l'importance de se pencher sur l'amélioration et la proposition qu'on peut faire. L'ambition pour nous étant d'être une petite maison de mode à Paris, ce qui prend de plus en plus forme, puisqu'on a aujourd'hui investi dans un atelier où on fait et monte nos pièces chez nous, maison, comme serait le cas dans une maison de mode, voilà, avec couturière, mécanicien.
D'accord, donc vous produisez en interne maintenant.
Et pattern maker, en tout cas, on produit les premiers protos maison. Nous a rejoint une creative director, une
directrice artistique.
Directrice créative, ouais. Qui a 10 ans de métier comme directrice de collection précédemment chez Céline aux côtés de Phoebe Philo. Donc on amène beaucoup de métiers de ce que c'est qu'une exigence d'une maison de mode un peu plus pointue. Donc avec pour nous la présentation pour la première fois dans la semaine de la mode en janvier l'année prochaine. Voilà. On pense qu'il y a une place petite certainement, mais une place au milieu des grands groupes qui ont leur très belle maison depuis plus de 100 ans. Et voilà, comme mini fashion, mini Paris fashion house. Parce que ça nous intéresse d'aller un peu s'amuser, de faire des choses un peu différentes et d'être moins dans une formula, de répéter chaque saison les mêmes collections et d'être dans quelque chose de plus percutant en termes de marque.
De propos de marque, ouais. Ouais. Très bien.
Tout en se prévalant d'être de Paris. Paris a une importance très forte, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on laisse Paris qu'à toutes ces grandes maisons de mode.
Voilà. Ouais, c'est clair. Ouais.
Donc on veut en prendre un petit bout à nous aussi. D'ailleurs, ici, on est au centre de Paris, comme vous pouvez constater. On peut pas être plus central que plus là où Malo, on a vu sur le Louvre, on est sur la Comédie Française,
C'est assez fou. J'aimerais bien qu'on fasse un parallèle entre le music business et la mode. C'est quoi les similarités, c'est quoi les différences, et en quoi ça vous a aidé à construire la marque de mode?
Je sais pas s'il y a forcément des similarités, mais disons que c'est des cycles différents. Ouais. Certainement. Et puis, un développement d'un artiste se fait sur plusieurs années. C'est un investissement qui dure un peu longtemps. Bon, ce qui serait le cas aussi sur une marque de mode. Après, l'artiste a sa vie dans son milieu, a créé son histoire. Et la musique, elle voyage partout très vite aujourd'hui en digital. Et peut-être ça joue d'une certaine aura à un moment quelconque en termes de résonance de nom par rapport à Kitsune qui est un label de musique qui du coup est joué sur toutes les plateformes partout tout le temps sans fin. Donc c'est des millions de streams qu'il peut y avoir chaque mois venant de notre catalogue. Après peut-être que les similarités, je ne sais pas si c'est quel est les peut-être que pour être visible pour un artiste ou comme peut-être pour une marque d'événement, il faut avoir un propos un peu original et unique qui fait qu'on se distingue de ce que c'est que la masse des propositions qu'il peut y avoir partout tous les jours pour les gens. Et donc, c'est certainement un degré de style et d'originalité qui crée aussi un intérêt et une reconnaissance de fans qui peuvent adhérer ou pas. Ouais. Voilà, maintenant, l'artiste, il est plus censé être dans l'émotionnel et dans l'authenticité et dans la vérité que ne serait-ce qu'une marque de vêtements. Voilà, donc,
C'est quoi d'ailleurs le propos de Kitsune, la marque de vêtements? Quand on vous demande, c'est quoi ton propos? C'est quoi le propos de la marque?
Alors, c'est un propos hyper égoïste. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, on n'a pas de volonté de changer le monde, ni de quoi que ce soit. Et comme d'ailleurs récemment, on a rajouté la couche du métier du café. Par ailleurs, je tiens à dire que le métier du café, pareil, on le fait jusqu'au bout du, notre café, Kitsune. Il est très, très, très bon. Il n'est pas du tout, il est un endroit un peu merveilleux dans le jardin où c'est un plaisir d'y venir déjà. Et ensuite, le goût du café lui-même est très bon. On fait très attention à la façon dont il est.
Comme pour tout, vous allez jusqu'au bout du métier.
Et ce qui nous intéresse d'ailleurs, parce qu'on investit beaucoup dans cette partie café aussi. On va ouvrir beaucoup plus de lieux, beaucoup plus de cafés. Y faire notre propre roasterie. Pourquoi pas avoir nos propres plantations, qui revient d'ailleurs, ce qui est marrant, un métier d'agriculteur comme a pu faire mon père il y a longtemps. Enfin bref, mais disons que, mais ce qui, qu'est-ce que c'était la question, pardon? Ah oui,
le propos.
Le propos, ouais. Non, ouais. C'est de se faire plaisir à nous d'abord, et c'est vraiment ça qui est un peu égoïste dans ce sens-là, c'est que, voilà, on avait beaucoup l'idée d'aimer, on aimait beaucoup l'idée de, à un moment d'aller, de retourner et d'aller au Japon, parce que c'était un pays qui nous intéressait beaucoup. Et c'est vrai qu'on a fait une proposition de collection qu'on pensait qui plairait aussi à une clientèle asiatique japonaise, qui nous donnait l'opportunité d'y retourner aussi au Japon. On adore le jardin du Palais Royal, on a toujours voulu être plus vers le jardin du Palais Royal. Donc on avait une première boutique, toute petite boutique de 10 mètres carrés, qui était rue Thérèse. On était très loin du jardin, mais on faisait déjà des sweatshirts à Maison Kitsune Palais Royal, vous voyez. Donc, avec l'ambition un jour d'y arriver, hein. Et on s'y rapprochait quand on a ouvert une boutique dans le passage Beaujolais qui donne sur la rue Montansier. Enfin, mais on n'y était pas encore. Il se trouve qu'un concours de circonstances a fait qu'il y avait un lieu dans le jardin qui se libérait d'un fabricant de tissus qui s'appelle Jules Tournier, qui fabrique les fameux tweeds de Chanel d'ailleurs, par ailleurs. Et qui nous dit « Ah, je m'en vais, je veux quitter ce lieu ». Il avait ce petit espace qui fait même pas 30 mètres carrés sur le jardin. Et on dit « Bouge pas, on prend ». Et donc, on s'y est mis là sans trop savoir quoi y faire. Et puis, on a fini par y mettre un café, développer l'activité du café comme ça. Mais ce qui nous intéressait, c'était d'être dans le jardin et d'y passer du temps. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui tous les jours à 2 heures de... 14h, 14h30, je suis dans le jardin tous les jours, je prends mon café, et c'est vrai que c'est un des endroits les plus calmes de Paris. Mais voilà, c'est toujours en fonction de ce qui nous plaît. Là, on va ouvrir on est en train de travailler sur ouvrir un hôtel en Indonésie. Voilà, je suis découvert une passion pour l'Indonésie. J'y vais depuis 7-8 ans maintenant, et c'est vrai que le concours, l'idée d'y avoir une chose en plus à y faire en même temps que j'y aille, voilà, c'est comme on adore l'idée de New York, on adore aller à New York, on a ouvert une boutique à New York pour avoir l'occasion d'y aller, mais
c'est très organique, c'est assez opportuniste à chaque fois.
C'est opportuniste, organique, et c'est que dans une idée de quelque chose qui nous plaît et qu'on a envie de faire, nous, à un moment donné, voilà, qui correspond à des moments de notre vie, et la façon dont on a un peu financé la structure, si jamais, qui est très opportuniste, c'est aussi, voilà, la musique, le label de musique avait très vite aussi pris une dimension internationale, parce que la musique, elle est jouée partout, parce que les disques qu'on sortait étaient souvent anglo-saxons et tout ça. Donc, on était amené à représenter le label dans des soirées un peu partout dans le monde et y faire les DJ. Donc, avec Massaya, on était DJ sous le nom de Gilda et Massaya. D'ailleurs, on est à la retraite depuis 4 ans. Hein. Pour ceux qui... Non, mais on avait une petite carrière, on n'était pas mauvais, donc on faisait le tour du monde sans fin. Mais on était à Séoul, on y rencontrait de potentiels acheteurs de notre ligne d'événement. On a Milan, rencontré des gens, à Zurich, Malmö, Copenhague. C'est-à-dire qu'on a fait le tour du monde et on faisait le DJ le soir et on y invitait potentiellement de potentiels clients de magasins multimarques qu'il y avait en ville. On les rencontrait dans la journée. Donc, on était payé pour faire les DJ et voyager. En même temps, on y faisait les VRP et parler de notre marque d'événements. Donc, on créait aussi une fanbase, on rencontrait des gens, ce qui nous a donné et permis de créer une sorte de synergie positive, virtueuse positive, énergique, en termes de reconnaissance de marque et commercial, et de financement, parce que l'argent qu'on gagnait des DJ était réinjecté dans, un peu pour qu'on puisse manger un peu, bien sûr, mais aussi dans le développement de nos collections.
Et qu'est-ce qui vous a vraiment fait émerger? Est-ce qu'il y a eu un moment, un milestone qui vous a fait exploser?
C'était... Bon, après, on n'a pas du tout explosé. On est encore une petite marque modeste. Hein, faut ouais, pas, mais non, après, c'est pas... Il n'y a pas de volonté de d'explosion ou quoi. On a... On est très humble par rapport au par rapport à ce que c'est que l'idée de faire une marque et qu'on pense qu'il faut du temps et que ça se fait pas voilà façon accélérée. Alors je sais que certaines marques voilà se font investir par des fonds prennent beaucoup d'argent et ouvrent beaucoup de boutiques très vite. C'est pas quelque chose qui, je pense, nous correspond à, qui nous correspondrait parce que pour moi, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre du coût que de quelque chose de plus, comment j'allais dire, j'allais parler comme quelqu'un de, un peu de patrimonial, je dirais, quelque part, où quand on veut créer une marque comme ce que nous on veut faire, on veut qu'elle soit là encore dans 25, 30, 40 ans peut-être, et je crois moins à, une marque qui s'est développée très vite et qui sert à faire des retours sur investissement rapide pour des fonds et ensuite qui est revendue très vite à un autre fonds qui réinjecte encore et qui voilà donc après c'est un peu comme une patate chaude qui est refilée à différents niveaux et qui pour moi à la fin perd beaucoup de son d'identité quelque part hein, certainement puisque on parle d'une formula de
c'est dilué
bah, déjà le créateur quoi. Originel il est plus là certainement et en tout cas il a pas de pouvoir parce qu'il est très dilué en effet et c'est vrai que du coup il y a moins de je pense de d'histoire qui bon alors, peut-être je peux me tromper hein, chacun y trouve son compte mais en tout cas c'est pas quelque chose qui correspondrait à ce qui nous plaît à mon associé et moi et que du coup, pour garder le contrôle et être aussi capable de réinvestir, c'est une balance de garder mesure sur par rapport à notre ambition, notre ego et les moyens qu'on a. Donc c'est
un équilibre qui est assez difficile à trouver quand même.
Et voilà. Donc jusqu'ici, on a eu de la chance de faire des bons choix et de pas non plus cette lancer dans des investissements trop coûteux qui n'ont pas eu leur retour voilà qui nous a évité de devoir aussi aller trop nous diluer mais voilà mais
en tout cas bon an mal an vous grossissez vous faites quand même pas mal de chiffre d'affaires maintenant j'avais lu 40 millions d'euros de chiffre d'affaires vous avez 12 boutiques 350 revendeurs c'est
15 boutiques
Plus, maintenant.
Ouais. 15 boutiques. Pardon, c'est pas, on n'est pas à ça près, mais non, on ouvre une très très belle boutique à Séoul cette semaine.
Ouais.
J'y vais d'ailleurs demain pour l'ouverture. On a fait une soft opening les 2-3 derniers jours là, qui s'est apparemment très bien passé. Et l'étape d'après pour nous, c'est on ouvre à Jakarta, ensuite Taipei. On est en train de discuter sous l'ouverture. Alors ça, c'est ça. Ça va un peu mettre en paradoxe dans ce que je disais précédemment, mais on fait un partenariat en Chine, une joint venture avec un partenaire local pour ouvrir 50 boutiques en Chine. Ça commencerait en juin 2019 sur 3 ans. Voilà, après, c'est l'idée d'avoir installé aussi une structure et un métier, et un savoir-faire qui a la capacité aussi ensuite de se développer, d'avoir une distribution plus importante.
En direct, ouais.
Je pense que l'attrait de la marque est prête aussi pour aussi se développer un peu plus, de façon plus grande sur certains territoires asiatiques.
C'est très intéressant.
À Paris aussi, on ouvre deux nouveaux lieux aussi l'année prochaine. Dont un nouveau café très grand, juste en face, là-bas, au coin de la rue Richelieu et de la place André Malraux. Un très beau lieu en diagonale de où on se trouve en ce moment.
D'accord, bah je mettrai le lien sur la description du podcast. Comment vous travaillez au quotidien avec Masaya ? Parce qu'il est basé au Japon maintenant.
Ouais.
Ouais. Comment ça se passe ? Comment vous répartissez les tâches ? Comment ça se passe, la relation ?
Ça se passe. Non, avec Massé, on s'entend très bien. Mais non, je crois qu'on a beaucoup de chance parce que de ce que je connais d'aventures entrepreneuriales jointes. C'est un peu comme un mariage, donc c'est que on est autant décisionnaire l'un que l'autre sur la marche et la bonne marche de l'entreprise. Donc après, il y a forcément un lâcher prise en termes de degré de confiance. Voilà, donc il n'y a pas de questionnement d'aucune sorte. Je crois qu'on s'est jamais engueulé d'aucune manière. Lui, il est sur notre territoire principal, le Japon, où on fait le plus de chiffre d'affaires. Et ouais, il s'occupe de la structure au Japon, mais aussi de toute la partie de rayonner sur toute la partie Asie du Sud-Est. Voilà. Et on se parle tous les jours sur toutes les prises de décision qu'il peut y avoir de quelle manière, mais. Aujourd'hui, on a la chance une réalité d'avoir aussi des équipes qui ont beaucoup d'autonomie et qui sont qui ont une directrice générale qui s'appelle Audrey Castel qui est très 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 compétente avec. Directeur financier,
Grosse structure maintenant, ouais.
Avec des intervenants, direction commerciale, on a même un brand director, en présence d'un garçon qui s'appelle Antoine Rossier. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de choses où sur chaque territoire, que ce soit dans notre bureau japonais ou dans notre bureau new-yorkais, on a aussi des general managers très 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 performants. Voilà, au Japon aujourd'hui, on a une quarantaine d'employés et c'est une structure qui tourne. Comme à New York, on a un peu moins, on a une dizaine, mais sur ces territoires, on a aussi des gens qui ont beaucoup d'autonomie voilà. Donc on est plus là pour tracer des grandes lignes de certaines, plus des questions de vision et de timing. Alors après, ça fait présomptueux de dire ça, mais c'est un peu le cas de. Voilà, c'est le bon timing pour faire ce deal et être en Corée. C'est ce bon timing pour faire ce deal et être en Indonésie. C'est le bon timing pour commencer à.
Et vous faites accompagner
à regarder la Chine, ouais. Accompagné par, pardon.
Vous faites accompagner par des spécialistes à chaque fois de la mode, du retail, parce que c'est des métiers que vous apprenez sur le tas. Donc, est-ce que vous faites appel à des gens
alors,
ou
non,
pas du tout?
Non. Non,
non,
okay. Non, pas du tout. Non, non, non. Après, après, c'est plus sentir les choses. Moi, il y a des villes, par exemple Londres, on n'y est jamais allé encore,
ouais.
Parce que même si moi j'y étais 1 milliard de fois, c'est la capitale de Londres, c'est la capitale de la musique. C'est eux qui ont inventé la pop musique. Ouais. Donc, que ce soit avec Daft Punk précédemment ou avec tous nos groupes anglo-saxons, ouais. J'ai passé un temps fou à Londres. Ouais. Mais j'ai jamais compris comment la ville
s'articulait.
Qu'est-ce qu'ils aiment bien les Anglais? J'ai jamais compris qu'est-ce qu'ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils achètent,
ouais.
Où ils vont, comment ils font leur shopping. J'ai pas compris la dynamique de la ville.
Ouais.
Et du coup, on n'y a jamais ouvert une boutique. Mais après, je suis pas forcément sûr que je ferai confiance à quelqu'un qui saurait me dire, parce que moi, quand je vois tous les retail qu'il y a à Londres, je suis pas convaincu. C'est pas une ville qui m'attire. Parce que j'ai l'impression que ça coûte très 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 cher et que y a pas forcément de, je vois pas un retour dingue en termes même d'image ni de business. Par contre, on travaille très très bien avec des revendeurs en ligne comme Mr Porter, End Closing, qui sont anglais et tout ça. Mais après, c'est un territoire. New York, on y est allé bien sûr plusieurs fois, mais en 2 secondes, j'ai compris. Comment marche la ville, par où ça passe, quelle est la dynamique. Pareil Tokyo, pareil Séoul. Voilà, donc c'est aussi des
ressentis. Ouais.
Alors en effet, peut-être que sur certains lieux, peut-être on devrait faire en effet appel à des connaisseurs plus. Mais voilà, après on devrait se lâcher plus encore dans notre délégation.
Vous bossez trop.
Comment?
Vous bossez trop déjà.
Non, je suis pas dans la catégorie de ceux qui bossent trop. Je pense définitivement que que une de notre grande force à mon associé et moi-même, c'est de savoir dire non. Peut nous proposer beaucoup de choses tout le temps.
Comment vous dites non alors?
C'est juste qu'on sait très bien que ce qu'on fait là aujourd'hui, à l'allure où on le fait,
ça fonctionne.
Ça fonctionne et ça prend du temps. Voilà, et que on n'a pas de nécessité à être dans une sorte de surenchère permanente de faire telle ou telle chose sans fin tout le temps, histoire d'avoir l'air d'être occupé, de devoir faire des choses. Je sais qu'il y a forcément un moment où l'esprit ou le corps dit stop et que voilà, que c'est aussi des choix de vie. Ouais, j'ai une famille, j'ai des enfants. Est-ce que j'ai forcément envie d'être dans un avion tout le temps? C'est pour ça d'ailleurs que on a arrêté de faire les DJs, c'est que juste ça nous plaisait pas d'être dans un aéroport et de faire les DJs. Et quand on n'avait plus d'intérêt à le faire, parce que la marque n'en avait plus besoin, en tout cas financièrement, et nous-mêmes n'y trouvons pas forcément de plaisir non plus à être du jeudi, vendredi, samedi, à traîner dans les aéroports, à 3h du matin en discothèque. Voilà, donc c'est plus de ce qu'on veut faire de nos journées qui nous importe à nous avant tout. Et on nous propose de prendre des directions artistiques de Santa de marque ou qui pourraient être challenging d'un certain côté, où on pourrait y apprendre des choses, mais qui en même temps ferait qu'on n'aurait plus de vie non plus. Donc, je suis toujours impressionné de voir des gens qui souvent grâce aux réseaux sociaux, on voit des gens là, on a l'impression qu'ils n'arrêtent jamais.
Ouais.
Et j'ai du mal à comprendre le degré de satisfaction qu'ils y trouvent aussi.
Dans le choix des opportunités, vous marchez vachement à l'instinct, j'ai l'impression, et au feeling. Et dans le choix des collaborateurs et même des groupes de musique, comment ça fonctionne? C'est quoi le mécanisme?
Pour les groupes de musique, c'est à l'instinct, hein, c'est au feeling. Hein, c'est des petits artistes. La Parcelles, dont on a sorti l'album d'ailleurs last weekend, là, vendredi dernier, je crois. Un petit groupe australien que j'ai écouté sur SoundCloud. Dont j'ai écouté 3-4 chansons sur SoundCloud il y a 3 ans déjà. Et je trouvais ça funky, je trouvais ça bien. Après, ils avaient écrit sur leur SoundCloud Berlin, comme ils étaient de Berlin. Donc j'étais là, ouais, des Allemands, du son funky. Je me disais, je suis pas forcément sûr que ce soit possible. Bon, j'ai quand même droppé un petit message, histoire d'être au cas où, hein, consciencieux. Hein, je dis, ah, coucou. J'apprends qu'ils sont en fait australiens. Mais qui ont tenté la grande aventure de l'Europe en venant s'installer à Berlin parce que c'est une ville aussi plus accessible et moins chère que ne serait Londres. Voilà, donc je me dis ah, ils sont un peu malins, ils font attention à l'économie et du coup leur chanson me plaisait d'autant plus parce que en effet les Australiens sont des très très bons songwriters et j'ai été les rencontrer. Je suis allé les voir, ils m'ont fait une petite session de chansons en live pour moi tout seul. Ouais, j'ai vu des musiciens incroyablement talentueux d'un autre niveau. Ils avaient 19 ans à ce moment-là ou un peu moins et ils répétaient ensemble depuis leurs 12 ans. Donc ils étaient des dingues, des vrais musiciens d'un autre niveau. Et d'ailleurs, ils font l'Olympia là très bientôt. Je sais plus la date, mais je vous invite à... Là, c'est complet, pardon. Je suis désolé. mais disons qu'ils font l'Olympia et ils sont incroyables en live. C'est vraiment... Coco de Saint-Constant a sorti quelques petits disques, ils ont grandi en maturité, ils font des dates de plus en plus grandes. Ils ont eu la chance aussi que des garçons comme Daft Punk aiment leurs chansons et produisent un de leurs titres et co-écrit un de leurs titres qui s'appelle Overnight, voilà, qui leur a donné une amplitude plus grande en termes de reconnaissance. Et puis blablabla, on a fait le travail de maison de disques et aujourd'hui... ils vivent leur vie et on est toujours producteurs. Hein. On sort une vidéo là avec Mila Jovovich en actrice principale là cette semaine aussi dans une de leurs vidéos. Ben, ils continuent leur expansion internationale voilà, c'est plus une question d'oreille et de se dire il y a une originalité, il y a un talent, il y a une chanson. Voilà. Alors mes collaborateurs, c'est un peu de la même manière. Alors aujourd'hui, je vous avoue que on fait appel à des et c'est plus on a une très bonne DRH, directrice des ressources humaines, et avec notre directrice générale. Voilà, je suis moins moi dans cette partie spécifique de l'embauche de collaborateurs, mais je sais qu'on passe par des cabinets de recrutement qui ont pignon sur rue, je sais pas ou pas, mais en tout cas qui oui, on a aussi une exigence, nous, d'apporter du savoir-faire et du métier plus encore dans notre structure qui s'est en effet développée de façon empirique et organique toutes ces années et qui aujourd'hui a peut-être besoin plus de se structurer, de mettre en place des process et des choses qui font que qu'il y ait moins de perdition dans les métiers pour chacun et aussi pour tout le monde d'y trouver aussi la possibilité de grandir, d'apprendre des choses et d'y trouver du alors je vais pas faire de ah dans une certaine mesure d'y trouver un certain plaisir à venir au travail chez nous voilà après c'est encore une fois un absolu et que c'est je sais très compliqué d'être capable à 100% toujours de créer un environnement de travail le plus optimal qui soit par rapport à plein de circonstances qui font que mais en tout cas c'est ce à quoi on tend autant que possible hein. Sans aucun cynisme, pardon. Non, mais vraiment, sincèrement.
Bien sûr. Est-ce que vous avez des... Enfin, vous êtes inspiré de qui, en fait? Est-ce que vous avez... Je sais pas, on parle souvent de role model ou des gens... Des... Ramdan Touami, que j'avais interviewé, il me parlait de retail heroes. Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent?
Ramdan, certainement, m'inspire. Mais... non, après, je sais pas si... j'ai des phrases comme ça qui me reviennent en effet qui sont plus des formulas. Faut pas avoir l'ego plus grand que le portefeuille ou voilà des éléments de cette nature que peuvent dire certains entrepreneurs. Après j'ai pas de on est quelque chose qui est assez qui est assez intuitif et qui nous ressemble beaucoup à Masaya et moi. Donc après mais on prend des petits bouts peut-être à certains endroits. Je suis en réfléchissant peut-être à un monsieur comme Nigo au Japon et peut être très inspirant. Guy Sliman à sa manière pour certaines choses peut l'être aussi. Je regarde aussi beaucoup de travers de certaines façons de faire qu'ont pu avoir certaines personnes qui seront des choses qu'on ferait pas. Oui. Voilà. Ou peut-être même des choses que certaines personnes font qu'on ferait, c'est vrai, si on regarde de façon plus positive les choses. Non, je pense que certainement que ce qui est le plus important pour nous, c'est de pas rester figé à un endroit et d'être toujours très curieux. Donc après, est-ce que ça, d'où on le prend, je ne sais pas à quelle manière, mais en tout cas, je suis certain que faire une marque et développer quelque chose qui est dynamique et qui reste dans l'air du temps et qui parle à son époque, c'est très important d'être très ouvert et très curieux sur ce qui se passe en effet dans l'environnement de retail, mais pas que communautaire et autres de territoire, mais et qu'une marque qui se fiche trop et qui reste trop sur ses acquis a aussi se réveille souvent trop tard, voilà, par rapport à une époque qui va aussi très vite où les infos on reste là. Une minute au mieux quand elle a droit à être un peu visible. Donc ça.
Mais Pardon. Comment on fait le comment on trouve son équilibre entre justement cette vitesse d'Instagram de zapping permanent et cette stratégie de dire on construit une marque pour les 40, les 50, 100 prochaines années.
C'est. Ben faut forcément en jouer de ce que c'est que l'outil d'aujourd'hui qu'est Instagram. Pas voilà, je pense que Kurt Cobain qu'on peut citer ici avait dit qu'il valait mieux aller dans le système plutôt que qu'aller contre. Après est-ce que ça lui a fait mal, je crois, mais disons que non, jusqu'où on joue de ce qu'il y a qu'environnement, mais c'est un outil merveilleux, Instagram. Maintenant, je suis pas convaincu qu'il est là pour durer pour toujours. J'imagine que, comme moi-même, qui ai été beaucoup sur Instagram, je ressens un degré de lassitude à y aller. J'imagine que, certainement, comme ça a été le cas de Facebook, ça devient quelque chose qui est moins intéressant pour les gens sur la durée après y avoir passé trop de temps. Donc, aussi, c'est quelque chose qui va être certainement être remplacé par je ne sais quoi encore, mais disons que tandis que nous ce qu'on fait alors après c'est présomptueux à nouveau, mais a aussi... Non, certainement que non. Il y a des marques plus cool que les nôtres qui arrivent aussi certainement pour nous remplacer derrière. Mais non, je m'en rends compte maintenant, quoi. Merci, quoi. Merci. Non, mais voilà. Après, si on continue à se faire plaisir, à grandir et à se développer, il n'y a pas de échanger ou faire des propositions variées toujours. Non, mais c'est vrai qu'on peut être aussi remplacé par quelqu'un ou une marque plus cool que la nôtre. Ça, c'est une option. Hein, qu'on doit pas, on ne doit pas se cacher.
Deux dernières questions, parce que c'est l'heure. C'est quoi votre moteur? Le moteur de Gildas, qu'est-ce qui fait que vous vous levez tous les matins?
Et j'ai pas spécifiquement de...
Ouais, de trucs qui
non,
vous drive.
Je suis juste à un endroit où, pour dire exactement, il n'y a pas de... voir comment peut-être la marque aujourd'hui qui est certainement Kitsune, ça me prend une grande partie de mon temps et de mon cerveau, ouais, beaucoup, et voilà, ça c'est un hobby qui me passionne, donc certainement que c'est ça, ouais, qui maintenant tout en étant pour moi une ambition de pas en être tous les jours non plus tout le temps. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'installer quelque chose, une équipe, des gens forts et plus brillants que moi dans le métier, qui me donneraient la latitude de pouvoir faire d'autres choses aussi à un moment quelconque, tout en ayant créé une histoire qui continue aussi. Voilà, donc je travaille tous les jours à faire quelque chose dont je dois me séparer. Vous voyez, c'est beau, bah. Ah, c'est magique. Hein.
Ça, je pense qu'on va le retenir. Ouais. On le mettra en citation.
C'est un bon paradoxe.
Dernière question. C'est une question gimmick que je pose toujours à mes invités. Mais je pense que vous ne l'avez pas préparé. Qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast?
Vous me parliez tout à l'heure de Loïc Prigent, mais ça doit être merveilleux de l'entendre. Et non, je ne sais pas qui c'est qui a comme... Nigo, vous devriez parler à Nigo.
Ouais, Nigo, ok, ça marche.
Il est bon, ça doit être très, ça doit être spécial de lui parler, mais c'est quelqu'un qui sent les choses et qui a une vraie, un vrai aura et une vraie, un charisme. Voilà, je cherchais le mot en français plus adapté, et qui est un peu comme un phénix. Il renaît de ses cendres, il fait Bape. Il vend Bape, il fait une nouvelle marque qui s'appelle Human Made. C'est à lui, qu'est-ce qui lui fait se lever tous les matins? C'est pourquoi n'a-t-il pas mis fait pouce à un moment? Et ça, non, il est là, il continue.
Il lâche rien.
Et il a toujours son train de vie, ses Rolls Royce, ses collections de mal Vuitton, c'est son mobilier prouvé. Enfin, et non, c'est Nigo, certainement que c'est pas, ça doit être très particulier, parce que je pense qu'il a une façon de voir les choses très à lui.
Très bien, et ben ce sera les mots de la fin. Merci infiniment, Gildas.
Merci.
Salut.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes et SoundCloud, c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcasts depuis votre iPhone et cherchez « Entreprendre dans la mode » dans votre barre de recherche. Allez dans la section « Notes et avis » et laissez un commentaire. Vous pouvez aussi choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.